11h35, c'est l'heure de notre rendez-vous du mercredi. En été, on parle avec Marthe Laverdière, horticultrice, propriétaire des serres Lima à Armand. Salut, Marthe!
Salut!
Toujours aussi énergique et de bonne humeur.
Ben, écoute un peu, c'est le fun, c'est l'été, il fait beau, merveilleux.
Toi, t'es pas le genre à avoir la baboune, hein, si je me trompe pas, c'est pas...
Non, non, hein? Moi, je suis plutôt du genre, un peu, je dirais... un petit peu trop high, là, excité. Moi, tu ris, écoute, dans le temps, ils nous classaient pas, mais c'est sûr que j'aurais été là un enfant hyperactif.
Ah oui, parce que t'arrêtes
mais,
pas.
Mais garde, ça a quand même des qualités, si tu peux canaliser ça comme il faut, là.
Ouais, canaliser ça dans des affaires comme ta passion, finalement, hein?
Oui, oui, puis comment je pourrais dire, ça nous donne beaucoup d'énergie, disons-le, ouais. Hein? Et puis, quand on est capable de bien faire avec cette énergie-là. Moi, je trouve ça merveilleux. Je dors pas beaucoup la nuit, mais tant mieux, parce que je fais plein d'affaires aussi la nuit.
T'as trop de choses à faire de toute façon. T'es pas capable de dormir.
Non.
T'es trop en demande. D'ailleurs, j'invite les gens à communiquer avec nous, parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de questions pour les chroniques horticoles du mercredi avec Marthe. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Et on commence, Marthe, avec les problèmes que les gens ont en ce moment, c'est-à-dire la fausse teigne de lilas. Que c'est ça?
C'est un papillon qui nous vient d'Europe. Ça, c'était même pas ici. Maintenant, on l'a réellement là, dans l'est là, du Canada. Là. C'est un petit papillon brun qu'on voit arriver en mai. Mm. Il va pondre en dessous des feuilles ses larves. Et puis, tu sais, à peu près une dizaine de jours après, quand l'œuf ouvre, la larve, elle est pas folle, elle va rentrer entre les couches des feuilles. Mm. Elle restera pas sur le dessus. Fait qu'on peut pas l'atteindre avec des insecticides normal de contact. Elle est protégée entre les couches. On commence à voir le problème. Ça va faire des petits ronds bruns sur la feuille ici et là. Souvent, les gens disent, mon Dieu, que c'est ça, mes feuilles, ils plaquent. C'est pas beau. Plus que ça avance, à peu près 3 semaines après, elle va ressortir de la feuille, puis elle va se mettre à enrouler la feuille. Là, on voit une feuille au bout brun, roulée. Et réellement, là-dedans, elle va manger par dans le rouleau pour se protéger des oiseaux et des insecticides. Elle est réellement pas folle. Puis, une dizaine de jours plus tard que ça, elle va se laisser tomber au sol pour devenir une chrysalide. Puis, aussitôt qu'elle revient papillon, ben elle remonte, ponde. Fait que souvent, au début à août, on a une reponte dans les lilas, puis qui repart le cycle pour l'automne là, de la fausse teigne. Fait qu'elle est réellement dure à pogner. Parce que même si tu arroses avec des insecticides de contact ou du liquide à vaisselle puis de l'eau, est soit entre les deux couches de la feuille ou enroulée dans sa feuille. Donc, elle est très, très difficile à combattre, celle-là.
Mais on fait quoi? On arrache les feuilles? On plante autre chose?
C'est ça. Aussitôt que vous voyez que vous avez des feuilles qui commencent à brunir, à plaquer, arrachez-les, brûlez-les. C'est le stade qu'elle est entre les couches des feuilles. En rouleau aussi, arrachez-les puis brûlez ça pour la tuer. Mais c'est sûr que quand tu en as plein puis que c'est rien que ça, ben virons pas fou, là, tu ne mettras pas à faire un striptease avec ton arbre, l'effeuiller au complet. Hein? Il y a une façon de faire qu'on utilise, c'est qu'on va travailler avec une fleur qui s'appelle le pirette de Dalmatie. C'est une petite marguerite blanche, ça. C'est un insecticide naturel connu depuis la nuit des temps. Moi, j'en plante au pied de mes lilas. C'est une vivace, OK? Puis qu'est-ce que ça va faire? Quand elle va se laisser tomber au sol pour devenir chrysalide, cette plante-là dégage un gaz naturel qui va la tuer. Ou tu peux faire du purin de pirette. Mmh. Ça, c'est merveilleux aussi. Alors, je vais vous dire comment faire, c'est pas compliqué. Tu ramasses tes fleurs de pirette, puis tu les mets la tête en bas dans un endroit bien ventilé pour qu'ils sèchent. Quand ils sont secs, tu vas mélanger 70 grammes de ces fleurs-là pour 10 litres d'eau. Puis tu vas mettre ça dans un contenant, puis tu vas laisser vieillir ça. Puis tu vas le brasser une fois par jour pendant 10 jours. Tu vas voir, à un moment donné, comment je pourrais dire... il va se faire des bulles au-dessus de l'eau. C'est la fermentation qui se fait. Quand il n'y a plus de bulles au-dessus, la fermentation est prête. Fait que tu vas couler ça et c'est 20 % de ce produit-là pour 80 % d'eau. Puis là, tu vas pulvériser ton arbre avec ça. C'est un purin de pirette. Mais on va pulvériser seulement le soir parce que c'est un insecticide qui est quand même assez puissant. Puis ici, s'il y aurait des abeilles proches, le jour, ben tu vas tuer tes abeilles, tu comprends-tu? Mmh. Fait qu'on attend que les butineurs soient partis le soir, on arrose le soir. C'est un merveilleux traitement, ça.
Ça fonctionne bien.
Ça fonctionne très bien.
Pour ce qui est des lilas, les gens se posent la question, on les coupe de quelle façon, à quel moment c'est important de les couper? Parce qu'évidemment, on ne veut pas les couper tout croche n'importe comment pour que l'arbre en souffre.
Oui. Les lilas, hein, c'est un arbre qui se reproduit en faisant une talle. Hein, c'est les rejetons du bois qui ressortent, les rejets. Moi, je garde toujours 5 à 6 beaux rejets que je laisse monter. Parce que tu sais qu'un lilas qui est rendu adulte, ben la branche qui est là vivra pas 100 ans. Là. À un moment donné, elle va mourir, elle fleurit moins, elle décrépit, elle devient vieille, elle sèche. Donc, celle-là, on la coupe. Fait que je laisse monter 5 à 6 beaux rejets de lilas. Puis le reste, je les coupe. Si ceux qui veulent les multiplier, c'est pas compliqué, à l'automne, prenez de ces rejets-là qui sont rendus à 30, 60 cm, puis vous les prenez avec une pelle ronde, puis vous allez les planter ailleurs. Ah. Fait que de même, votre lilas, vous allez pouvoir le multiplier comme ça.
Mais est-ce que c'est comme ça pour toutes les sortes de lilas?
Toutes les sortes de lilas, que ce soit le lilas français, le lilas japonais, ils se marquent tous du bas. Ceux qui sont réellement des lilas, tu sais, il y en a qui me disent, ah ben moi, j'ai pas ces lilas-là, j'ai un lilas réellement là, taillé en boule, en arbre. Mais si tu le laisses aller du pied, il va pas se marcoter.
Oui.
Mais c'est bon de laisser aller, à moins qu'il soit une boule en arbre que tu as achetée, sur tige, là, c'est sûr que tu vas dégarnir ton pied. Mm-hmm. Mais si c'est un lilas en talle, garde 4 à 5 belles branches pour remplacer tes branches plus vieilles qui, dans 8-9 ans, ils vont se mettre à vieillir puis à devenir secs.
Ça sent tellement bon quand les fleurs poussent.
Ça,
c'est... Ah! Ça, c'est
la fleur du lilas, ça a fait tomber ben des femmes en bouquet, ça m'a dit.
Mais c'est vrai, le seul dommage, c'est que ça ne dure pas tout l'été. Y en a-tu un qui dure tout l'été, Marc?
Ben, disons que tu peux allonger ta floraison dans le temps. Ça commence avec la floraison des lilas, les vulgaristes, les lilas qu'on voit partout communs, si tu veux, le lilas commun. Ensuite, ben, tu as les lilas français qui embarquent, les japonais qui embarquent. Puis, tu en as un qui est un bel arbre, l'ivory silk, qui est un lilas qui fait pas des fleurs de lilas comme les autres. Ils sont beaucoup plus petites, ils sentent moins, mais il va nous donner une belle floraison blanche au mois de juillet. Tu sais, on le voit beaucoup dans les terrains des commerces, parce que c'est un arbre qui endure la pollution. C'est pas un arbre qui est difficile, ça. Le ivory silk. Alors, si vous voulez l'avoir en serre ou en pépinière, c'est le syringa. Syringa, c'est le nom latin du lilas. Syringa ivory silk.
On va retenir ça. Syringa ivory silk.
Oui.
Maintenant, sur une autre note, il y a des gens qui ont beaucoup remarqué le trèfle blanc qui sort sur les pelouses ces temps-ci. C'est dû à quoi?
Oui. Bien, ceux qui ont des pelouses non traitées ou qui ont arrêté depuis 2-3 ans de traiter leur pelouse, qui s'en viennent avec une pelouse mixte, hein, de toutes sortes de choses, là, il y en a qui comprennent pas comment ça se fait qu'il va y arriver le trèfle blanc. C'est une petite plante qui fleurit blanc, un trèfle. Si c'est normal, le trèfle blanc va faire son apparition quand la terre est très, très sec. Donc là, on a eu de la pluie hier, Dieu merci. On était en période de grosse sécheresse. Franchement, il y a tétin qui mouille, comme on dit. Le lilas blanc, bon, les autres plantes sèchent temporairement. Le trèfle blanc va sortir. Combattez le pot. C'est anormal. C'est le cycle d'un gazon non traité normal. Quand que la pluie se met de la partie, le lilas fleurit moins. Pas le lilas, je poignais que ton lilas là, toi là, tu m'as fait rêver. Le trèfle fleurit moins, et puis les autres plantes mixtes de ton gazon vont reverdir, puis tu vas moins en voir, là, c'est normal ça.
Et pour la pluie, parce qu'évidemment, hier on en a eu, mais est-ce qu'on doit quand même arroser aujourd'hui?
Ben moi, je vais te dire, je sais pas vous autres, moi ici, il pleut présentement.
Okay.
C'est une belle pluie tranquille.
Rarement il pleut.
Je vais te dire, il y avait beaucoup de municipalités qui avaient des interdictions d'eau. Il était grand temps. Mm-hmm. Écoute, moi j'ai des plates-bandes de vivaces qui ont 15 ans. Puis, il était fané sur le coup du midi, là.
OK, fait que là,
tu dis que tes vivaces, les feuilles sont toutes fanées parce que moi, j'ai comme, en arrière de ma maison, j'ai comme un clos, là. 5 arpents de fleurs et d'arbres. Je peux pas arroser partout. Où est-ce que je pouvais pas arroser? Mais écoute, il fanait sur le coup du midi. Il était à grand temps, là.
Donc, on va souhaiter qu'on ait quand même un petit peu de pluie, même si on préfère avoir du beau soleil. Puis, il va en avoir encore pour les prochains jours. Quand même, la pluie, là, je pense que... c'est vrai qu'on peut pas toujours arroser non plus, là.
Non, non, puis je vais te dire, il n'y a pas un arrosage qui peut être aussi bon qu'une pluie qui pénètre tranquillement dans le sol. Non, il fallait réellement qu'il mouille, là.
Mais tant mieux, puis on en a, puis on va en profiter. 11h45, oui. On s'arrête quelques instants. Marthe Laverdière est avec nous, puis on va répondre à vos questions après la pause au 514-790-9850 et de partout au Québec, toujours sans frais, 1-866-790-9850. Toujours en compagnie de Marthe Laverdière, horticultrice, propriétaire des serres Lima à Armand. Pour vos questions, c'est toujours le 514-790-9850, 1-866-790-9850. Et Marthe, on s'en va parler tout de suite avec Lynn. Bonjour.
Oui, bonjour. Je veux savoir une information. Moi, j'ai des Selpie Glosses.
Oui.
OK. Puis je veux savoir, moi, lorsque j'ai plantes, là, des fois, sont assez, quand même assez hautes, je suis obligée de mettre des tuteurs pour qu'ils restent droits.
Oui.
Quand je mets des tuteurs avec un fil, là, quelque chose, ils fanent immédiatement. Y a-t-il une autre astuce pour ça?
Non, il n'y a pas.
C'est pas bien connu, ça, hein, des Selpie Glosses.
Non. Mais quand tu les plantes, ils ferment, est-ce que tu joues beaucoup dans tes racines? Est-ce que tu défais tes mottes?
Oui.
Il faudra peut-être que tu jouerais un petit peu moins dans tes racines.
OK.
Parce que quand tu les plantes...
Là, ils sont hautes, là, puis des fois, quand ils ventent, admettons, là, ça bascule, puis là, ça revient pas, là. Si je mets pas de tuteur.
Oui, bien, c'est sûr que les plantes hautes, si tu ne mets pas de tuteur, ils vont coucher surtout de plus en plus. On va avoir des vents de plus en plus violents puis des pluies de plus en plus fortes. On s'en rend compte là avec le réchauffement climatique. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ton cas. Là. Il va falloir que tu les gardes le tuteur, puis tu n'auras pas le choix.
Ouais.
C'est-tu une vivace ou un annuel?
Ça dépend. C'est classé vivastante. Ça dépend où tu es.
Oh!
Donc, ça peut changer?
Ben, ça dépend de la zone où est-ce que t'es.
Montérégie,
t'es en zone quoi? En zone 4, toi?
Oui.
Ben, regarde, moi, je dirais, si t'as un microclimat, il y a des grosses chances que ça va passer, là.
OK. Bon. Puis le basilic, ça prend-tu beaucoup d'eau ou non?
Le basilic, moi, personnellement, je le plante toujours en butte. Parce que ça l'aime avoir une terre humide, mais qui retient pas l'eau longtemps. Fait que si t'as une terre glaiseuse, plante-les en butte. Ça veut dire que tu te fais une butte puis tu plantes dessus ta butte.
Mmh. Oui, il est en pot.
Il est en pot. Puis, je veux dire que ton sous-plat, t'enlèves l'eau après une heure s'il y a trop d'eau dedans. Tout?
Oui.
Bien, il devrait être beau, ton basilic. As-tu les feuilles qui brunissent?
Oui, mais il y en a qui sont molles en dessous, là, c'est sûr.
Oui.
Ouais,
mais quel genre as-tu pris un terreau? Dans ton terreau, t'as pas rajouté de mousse de tourbe, de choses comme ça qui retiennent encore plus l'eau?
Oui.
Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Tu devrais mettre peut-être un petit peu moins de mousse de tourbe pour que ton terreau il sèche plus vite. Parce que, tu sais, toi comme moi, comme je te sens, tu es une personne qui suit tes cultures. Là. Tu ne pars pas une semaine sans mettre une goutte d'eau. Là, hein?
Ouais.
Non.
Ben c'est ça. Mets un petit peu moins que de pitmos pour qu'ils retiennent un petit peu moins l'eau.
Bon, merci beaucoup, Lynn, de votre question. Maintenant, Josée, vous avez une question pour Marthe concernant
les
lupins.
Oui, bonjour, j'ai une question. Oui, pour les lupins, en fait, mes lupins, là, c'est comme quand la fleur est finie, on coupe. Puis là, ben présentement, là, c'est comme si les feuilles ont été piquées, même si on a mis de l'exterminateur, là, d'insecticides, là.
Okay.
Ça l'a pas aidé. Puis je les garde jamais, mes lupins. Je les perds toujours. Je sais pas qu'est-ce que le problème,
okay.
Là.
Ben, les lupins, souvent, sont bien aimés par les pucerons. Avais-tu des pucerons verts ou noirs sur tes feuilles?
Non.
Sur tes branches? T'avais rien?
Non.
C'est quoi? Ça fait des trous sur tes feuilles? Les feuilles sont mangées, c'est quoi?
Les bouts de feuilles, oui. Les bouts de feuilles sont mangées, puis là, sont jaunies.
OK. Possiblement que t'es pogné avec des limaces. Alors, regarde, le soir, quand tu vas voir tes pépins, vois-tu des limaces en dessous des feuilles du bas?
Ben, faudrait que je regarde. J'ai jamais pensé de faire ça.
Regarde ça, puis si tu en as, va voir ma capsule sur les limaces. Ça va te dire quoi faire.
Mais pour moi, là, il y a limaces. Pratiquement plus de feuilles dans le bas, là, de toute façon. Là,
Bon, ben, regarde. Ce qui est le mieux, là, tu peux le rabattre de moitié. La floraison est finie. Rabat-le de moitié. Donne-lui de l'eau en masse. Il va refaire d'autres feuilles.
OK. Et puis, pour éloigner les moufettes, est-ce que vous avez un truc?
Les moufettes, moi, je vais te dire, je les laisse faire parce que c'est un animal utile. Je sais que beaucoup de monde ont peur de se faire arroser par la moufette. C'est pas yable, là, ou les chiens. Mais la moufette sur ton terrain, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient chercher les larves de verblin qu'il y a dans ton gazon. Fait que c'est un animal que moi, je trouve que c'est un animal utile. Puis s'il n'est pas dérangé, il ne pisse pas. Puis il sort le soir. Le jour, c'est très rare qu'on en voie. Donc moi, je les laisse aller, là.
On les laisse tranquilles.
Oui.
Merci beaucoup, José. Yvon, votre question pour Marc Laverdière.
Bonjour, madame.
Oui.
J'aimerais savoir comment cohabiter avec des scarabées japonais. C'est un problème dans la région de Montréal, ici.
Il y en a beaucoup, vous avez raison, ouais, ouais. Yvon.
Les scarabées japonais, c'est un insecte, premièrement, à carapace dure. Si on y va avec des insecticides de contact, ça veut dire qu'il arrive sur l'insecte. Ça ne le fait pas grand-chose. Ça le coule quasiment sur le dos comme... l'eau sur le dos d'un canard. Mm-hmm. Puis les prédateurs naturels, les crapauds, les couleuvres, les oiseaux, les reconnaissent pas encore. Ça fait pas assez longtemps qu'ils sont par ici. C'est pas un insecte qui nous vient d'ici, ça. Donc, écoute, là, il y en a qui mettent des pièges, puis ci, puis ça.
Ça fonctionne-tu?
Ça marche plus ou moins.
Non?
Le meilleur piège, présentement, c'est une paire de gants latex, tu les ramasses, puis t'es dessus, là. Parce que tant que les prédateurs naturels ne les reconnaîtront pas, on va en avoir beaucoup. C'est comme quand les passereilles sont arrivées. On était infestés, puis maintenant, on en a beaucoup moins. C'est parce que nos crapauds, nos couleuvres, nos oiseaux les reconnaissent maintenant. Mais tant que ça n'arrivera pas, ben regarde, le prédateur naturel, ben c'est nous, c'est Dole, mais c'est ça.
Donc, on les prend, mais je sais qu'ils se vendent des pièges, des sacs jaunes.
Oui, ils s'en vont, oui.
Mais ça, c'est bon ou non?
Ben c'est bon, oui, puis non. Tu sais, c'est sûr que quand on est dans une infestation de ça, tu ne viendras pas à bout assez pour protéger tes plantes. C'est de passer le matin puis de les ramasser le plus possible. Puis t'es jette, puis t'es fait brûler ou t'es
oui. Tu.
Va pas les promener puis les mettre sur le bord du chemin.
On ne change pas de code postal, là. Non, c'est ça.
Non.
Merci beaucoup, Yvon. Céline, vous avez une question concernant vos tomates.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est que je voulais vérifier pourquoi les cœurs de tomates, peu importe la sorte, Savoura, etc., c'est dur. C'est comme des typiques de bois.
Oui. Ben, souvent, les tomates qu'on achète au marché, qui sont produites en serre, vous comprendrez qu'ils n'attendent pas que la tomate soit mûre pour l'envoyer dans les magasins. Hein. Elle est cassée début mûrissage, souvent. Puis, c'est une tomate qui a été un petit peu forcée à être prête pour la consommation. On veut qu'elle se garde le plus longtemps à l'épicerie puis dans votre frigidaire. On voit rarement ça sur les tomates mûries dehors. Hein. On n'a pas ce problème-là. Mais c'est ça, c'est des tomates qui ont été un petit peu cueillies vite là, pour amener sur les tablettes du marché. Là.
Pour qu'on puisse en vendre davantage.
Ouais,
merci beaucoup, Céline. Il y a Roger qui nous écrit par courriel. J'ai quelques plants de fraises, mais souvent, on n'a même pas le temps de les manger, que les petites fourmis sont s'en chargent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les enlever de là?
Oui, premièrement, c'est naturel. Hein, ils veulent venir manger ça. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. T'sais, moi, je me dis toujours, arrosez pas vos fraises avec n'importe quel produit quand t'es pour les manger, là, à moins que tu veuilles être malade. Oui, c'est plate. La nature est comme ça. Quand il y a des petits trous dedans, moi, je prends un couteau, je la coupe et je jette. T'sais, on peut pas donner de produits miracle bio. Là.
Non, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ça, mais...
Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on prend une décision. Là, si tu veux absolument pas de l'avoir, ben arrose avec des produits chimiques. Mais là, mange pas tes fruits. Tu sais.
Ouais.
Je sais que les gens doivent dire elle a pas de recette miracle à mes problèmes, mais dans ma façon de voir ça, moi, à un moment donné, la nature, c'est la nature.
Oui, puis il faut la respecter aussi.
Oui, beaucoup.
Oui, Marthe Laverdière, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir te parler. Horticultrice, propriétaire des serres Lima à Armand pour les bons conseils. On remet ça la semaine prochaine.
Oui. Ça me fait plaisir.
Merci, passe une belle journée, ma chère.
OK, bye-bye.
Merci à toute l'équipe d'avoir été là. Jean-Christophe Ouellette à la réalisation, Shane Tepp à la recherche en compagnie de Isabelle Lard. Passez donc un bel après-midi. Il va faire beau, il va faire chaud. Puis nous, on remet ça demain, 10h, sans faute. Salut, bye.